Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saï au micro de Canal M qui vous présente aujourd'hui le National. Et on y va tout de suite, tiens, avec l'émission Accès Libre du 10 octobre dernier. Benoît Racette accueillait Alexandre Ruffin, Karine Villeneuve, Nathalie Labelle et Christian Lapointe à l'occasion du mois du nanisme.
Le nanisme, c'est une question sérieuse. Beaucoup d'organismes et surtout l'AQPPT, l'Association québécoise des personnes de petite taille, œuvre depuis longtemps pour qu'on reconnaisse ce handicap et aussi qu'on change les perceptions, qu'on change la culture. Donc, pour mieux comprendre, pour mieux ressentir ce qui se passe dans ces situations, on va parler plus tard avec un réalisateur et un membre de l'organisme. Donc, le réalisateur, c'est Christian Lapointe et Alexandre Ruffin, le réalisateur, et Christian Lapointe, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'AQPPT et qui participe à un documentaire. Mais avant de passer au documentaire, et d'ailleurs, documentaire pour lequel on a des extraits sonores pour vous, il faut quand même rencontrer Karine Villeneuve, directrice générale de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonjour Karine.
Bonjour Benoît.
Et Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale, toujours à l'AQPPT.
Bonjour.
Alors, ben merci d'être là. Je sais qu'on vous avait peut-être pas dit qu'on avait déménagé.
Oui.
Ça a été
une lutte contre la montre. On a réussi.
Mais vous êtes valeureuse, puis vous avez réussi à faire mentir la circulation difficile à Montréal. En quelques minutes, vous êtes arrivé à bon port.
Mm-hmm. Oui.
Bon, OK. Alors, parlons maintenant du mois. Oui. Parce que la raison pour laquelle on parle du documentaire puis du nanisme, c'est que vous en êtes à votre cinquième édition du mois sur le nanisme. Oui. Alors, rappelez-nous ça, Karine Villeneuve.
En fait, le mois du nanisme, pour faire une petite histoire courte, ça vient d'un désir en premier de notre organisme depuis des lunes. Pour justement faire comprendre aux gens qu'est-ce que vraiment le nanisme comme un handicap à prendre au sérieux, mm-hmm. on passait une journée, une semaine. Et là, plus le temps passait, un organisme un peu homologue, Little People of America aux États-Unis, depuis 2009, s'était lancé dans ça pour reconnaître le mois d'octobre, mois du nanisme. Un peu comme on a le mois de l'autisme, le mois de ci, de ça, justement pour ramener le nanisme dans qu'est-ce qu'il est vraiment, une condition particulière à prendre au sérieux.
Oui. Et c'est important de le faire parce que le problème souvent, c'est que les gens qui en parlent le plus du nanisme, c'est les maudits humoristes. Je suis désolé, je fais une sortie, là. C'est pas pour rien que vous utilisez ce terme-là parce que vous voulez être capable de dépasser ces clichés puis ces choses qui font mal.
La problématique chez nous, c'est que justement, vous savez, bon, on parle souvent le mot nain, souvent les gens veulent nous interpeller, êtes-vous pour ou contre? C'est pas qu'on est contre le mot nain. On ne l'utilise pas parce qu'on veut mettre l'emphase, sur la personne.
Ouais.
Parce que le mot nain, qu'on le veuille ou pas, oui, c'est pas une question de political correctness. Ça renferme des stéréotypes. Mm-hmm. Ça nous ramène à des choses qu'on n'est pas.
Ça te ramène dans le passé. On pensait d'en être sorti, là, mais c'est pas toujours le cas, on dirait.
Ben c'est ça. Les lutins, que ce soit les personnages mythiques, tout ça. Et aussi, ça ne parle pas de la vraie condition. Nous, là, parce que souvent, les gens, tu sais, c'est vrai que les gens nous trouvent cute, ils nous sourient, puis ça a un côté un peu sympathique, mais à la base, on a des conditions sérieuses. On a, nous, des maladies rares, qui vont infecter soit des maladies osseuses, hormonales ou organiques, qui vont, oui, bien sûr, affecter notre taille, qui est beaucoup plus petite, mais on a plein d'autres caractéristiques qui vont nous limiter dans notre vie, des malformations. La plupart beaucoup de nos membres vont devoir avoir des chirurgies quand même assez sérieuses. On n'est pas juste petit, on a des maladies, c'est ça.
Qui sont associées à la condition.
C'est ça.
Mais donc, c'est un travail que vous faites depuis longtemps. Vous, l'AQPPT, ça fait combien de temps que vous êtes?
41 ans.
41 ans?
Oui, qu'elle existe. Nathalie et moi, ça fait longtemps. Nathalie, justement, fête son 30e anniversaire comme membre.
Bravo, Nathalie Labelle.
Moi, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'on connaît le sujet, bien sûr.
Ouais.
Mais c'est ça. C'est toujours travailler de changer le regard. Parce que c'est peut-être ça l'aspect le plus problématique. Nous, c'est le regard qu'on porte sur nous. Même parmi les personnes, les autres personnes handicapées. Mm-hmm. Pour bien des gens, on travaille, nous, Nathalie et moi, dans le milieu, même des gens militants, des gens dans le milieu, ne voient pas que c'est une condition sérieuse.
Ah,
parce
oui.
que justement,
oui.
le stéréotype est tellement fort
oui.
que c'est...
Même les gens qui devraient être sensibilisés...
Ben, les gens ne se rendent pas... Ben,
parce qu'ils ne vous entrent pas dans la famille ben, du handicap.
Ne reconnaissent, exactement, ne reconnaissent oui. pas le nanisme comme un handicap, mm-hmm. comme plein d'autres handicaps. Parce que nous, quand on parle d'handicap, c'est des situations de handicap. Oui. Donc, nous, tout ce qui est accessibilité, adaptation, Karine a parlé de maladies souvent osseuses, organiques, hormonales, mais nous, on a comme trois aspects dans le mm-hmm. nanisme, c'est les adaptations, tout ce qui est accessibilité, l'environnement, que ce soit à l'école, au travail, pour faire notre épicerie, à la maison. Donc, on vit quotidiennement des situations de handicap, mm-hmm. de non-accessibilité.
Oui, parce qu'on a, on a accès au métro par rapport à une personne peut-être qui est en fauteuil, mais les gens ne réalisent pas les efforts qu'on va faire.
Les escaliers.
Mm-hmm. Les escaliers, les marches longues.
Oui,
les longues
vous vivez
marches,
plus de risques, votre sécurité est plus souvent compromise. Et en plus, vous devez faire des efforts tout au long de votre vie beaucoup plus importants.
Puis donc... Étant donné qu'on a des problèmes osseux, mm-hmm. ben de marcher, nous, quand vous faites un pas, nous, on en fait trois.
Oui, voilà.
Donc, à la fin de la journée, on a marché trois fois plus. La hauteur d'une marche, c'est trop haut pour nous. Donc, ça fait des déhanchements au niveau des hanches, des genoux, de la colonne. Donc, ça amène beaucoup de douleurs. Quand on est opéré, qu'on marche avec des béquilles, avec des cannes, il y en a qui tu sais, on est éligible pour le transport adapté. Donc, il y en a qui font appel au transport adapté, pas les métros, les autobus. Avant, ouais. là, d'avoir les planchers, les autobus à plancher surbaissé, puis que l'autobus arrêtait dans un banc de neige parce qu'il y avait de la neige.
Moi, ça vous était complètement inaccessible.
Moi, je grimpais à genoux dans l'autobus parce que c'était comme inaccessible, mais j'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que les gens, on dit des fois, venez marcher dans nos souliers une journée de temps, puis vous allez voir c'est quoi, mais c'est ça, les gens prennent pas conscience.
Donc, votre mois de sensibilisation permet... de réexpliquer ça année après année. Mm-hmm. Je vous poserai la question avant de passer à notre réalisateur et à M. Lapointe. En 6 ans, c'est votre 6e édition, là? En 5 ans?
La 5e édition cette année.
Est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Est-ce que ça va mieux?
Ben, c'est sûr
le
que,
regard, au moins.
Ben, c'est sûr que les choses ont changé depuis... On parle de 10 ans, parce que de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus sensibles à la différence. Ça, on le voit, Nathalie le voit quand elle va dans les écoles. Les gens, à cause des émissions de télé, je veux dire...
Mais le discours sur l'inclusion fonctionne aussi.
Oui, mais par contre, il y a encore des blocages. Il y a encore des... C'est dur de faire avancer, surtout les gens, peut-être plus les plus âgés. Tu sais, ça m'arrive encore de pas se m'assister avec des journalistes qui veulent pas comprendre pourquoi on veut pas avoir l'étiquette nain puis l'impact que ça peut avoir sur notre communauté. Mm-hmm. Fait que c'est un peu le côté réfractaire. Et c'est surtout que les gens n'ont pas conscience du regard qu'ils ont face à nous.
Le regard face à vous, c'est un très bon moyen d'aller vers Alexandre Ruffin, réalisateur du documentaire « Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux ». Bonjour, Monsieur Ruffin.
Bonjour, vous allez bien?
Ben oui, très content que vous soyez avec nous. Vous avez collaboré notamment avec Christian Lapointe, qui est membre de la QPPT et qui siège aussi au CA. Bonjour, Monsieur Lapointe.
Bonjour à vous tous.
Oui, donc rappelons à M. Lapointe que vous êtes, en situation d'handicap. Vous voyez, ça rentre tranquillement. Vous êtes en situation d'handicap et votre enfant aussi doit composer avec le nanisme. Est-ce que c'est correct?
Oui, OK, parfait. Tout est beau.
Alors, je m'adresse à vous deux d'emblée. Alexandre Ruffin, est-ce que c'était difficile de faire ce film? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à changer un peu le regard en braquant votre caméra sur cette situation?
Je dirais premièrement que je suis extrêmement fier d'avoir eu la chance de rencontrer toutes ces belles personnes qui se sont livrées devant la caméra, qui ont participé à ce projet. Je dirais que j'ai été tellement bien encadré dès le départ par l'association la sélection des personnes aussi, tous les sujets que nous allions aborder dans le film, fait que non, j'ai toujours été en confiance. J'ai pas trouvé de difficulté à réaliser ce film. J'ai au contraire appris beaucoup, humainement parlant, puis sur la condition du nanisme aussi. Ça fait que c'est une expérience assez incroyable pour moi, très, très humaine, extrêmement humaine.
Et d'ailleurs, l'humanité traverse votre film. Ça serait peut-être heureux d'entendre un peu. Avant, je vais juste le situer pour les gens qui nous écoutent. Donc, il est possible de retrouver ce film sur le site de l'AQPPT.org. Donc, allez retrouver, là, ça s'est mis en avant. Mais aussi, si vous osez aller sur YouTube, moi, je vous recommande d'écrire « Le nanisme, un handicap ». Vous allez le trouver tout de go. Et si vous permettez, tout le monde, on entend un petit extrait.
Je pense que c'est d'être créatif dans la vie qui fait qu'on peut atteindre tous nos buts, tous nos objectifs, peu importe la condition qu'on a. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir, puis il faut accepter la différence, accepter que c'est difficile, accepter que c'est pas comme tout le monde, mais c'est possible.
Alors, le nanisme, un handicap à prendre au sérieux, est-ce que la différence, c'est ça qui nous marque le plus quand on croit à ce sujet, Alexandre Ruffin?
La différence, c'est une très bonne question. Moi, je fais 6 pieds 3.
Oh!
C'est que je vis à une autre échelle. Oui. Ce que les personnes atteintes de nanisme peuvent ressentir aussi.
Vous êtes un peu grand, je trouve, en tout cas.
C'est ça. mais en fait, c'est ça, effectivement. Parfois, moi-même, je ressens un certain regard de la part des autres, ouais. Un regard de différence. Les voitures sont souvent trop petites pour moi. Quand je vais voir un spectacle, je gêne tout le monde ou alors je n'ai pas assez de place. C'est un sujet déjà de prime abord qui venait me chercher moi-même personnellement. Et puis c'était mon objectif principal toujours dans mes films, c'est de surtout principalement de laisser la parole, de donner la parole aux gens pour qu'ils se sentent valorisés puis surtout compris. C'est pour ça que c'était important de passer beaucoup de temps en entrevue, et je pense que en voyant le film, les personnes se sont senties représentées et écoutées. C'était ça mon objectif premier.
De la parole au geste, j'ai envie de faire entendre encore un autre extrait. Je rappelle, le nanisme, un handicap à prendre au sérieux.
C'est juste de mettre les gens en contexte, puis je pense qu'il faut le faire de façon proactive. Quand on voit un regard, des fois, juste de mettre rassuré plus que moins. Si on a l'énergie de le faire, si on a envie de le faire, on peut le faire. Comme ça, ça crève l'abcès tout de suite, puis on passe à autre chose.
On donne la parole à Christian Lapointe, qui participe aussi à ce film, mais qui a certainement dû composer avec les préjugés, avec le regard. Christian Lapointe, vous êtes aussi père de deux enfants, dont un garçon de 5 ans, Rémi, qui a
un acondoplastie.
Merci. et vous avez la même maladie. Est-ce que c'est difficile, ce regard-là qui est posé sur vous, sur votre fils? Comment vous vivez ça encore aujourd'hui?
Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours vécu avec le regard des autres. Dès que je sors de la maison, je sais que je vais me faire regarder. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on compose avec ça. Donc, c'est sûr que quand j'ai eu mon garçon qui est de petite taille comme moi, c'est sûr que j'ai dû faire face à des regards des autres en me disant, oui, bon, lui, il commence dans la vie, il commence là-dedans. C'est sûr qu'il va avoir à faire face à bien des regards, bien des jugements. Mais sauf qu'on est dans une autre époque, on est dans une autre société qui fait que, oui, les gens sont un petit peu plus ouverts. C'est pour ça que j'ai accepté haut la main ce projet-là. Quand on m'a approché, j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit oui, c'est un sujet intéressant. Puis oui, j'embarque là-dedans pour que je puisse faire avancer un peu les choses. Puis quand j'ai embarqué dans ce projet-là, Alexandre nous a mis tout de suite à l'aise. Puis j'ai dit oui. Puis ça serait un bon moyen justement pour que mon garçon avance dans la vie puis pour aider les choses.
Donc, c'était un geste pour lui, beaucoup, que vous avez fait.
Ben, principalement, oui, pour lui, parce que moi, je veux dire, rendu à l'âge adulte, je sais comment ça fonctionne la vie, je sais comment ça fonctionne la société. T'sais, lui, il commence dans la vie, t'sais, il commence, là, il vient de commencer l'école, donc déjà, avec ce film-là, ça, je trouve que ça va faire beaucoup avancer les choses.
Alors, on rappelle d'ailleurs qu'on peut le voir et sur le site web occupé.pt.org et sur YouTube en repérant le nanisme handicap. Écoutez, j'aurais aimé ça passer plus de temps encore avec vous, mais j'invite les gens à aller voir le film. C'est certainement un bon moyen d'être sensibilisé. Et là, je me retourne, si vous permettez, vers Karine Villeneuve, la directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Karine Villeneuve, vous faites quelque chose de spécial jeudi le 19 octobre?
Oui, on va à l'Assemblée
nationale.
L'Assemblée nationale.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas juste convaincre le grand public, les décideurs aussi.
Parce que nous, depuis le début, on a le projet de le faire reconnaître de façon officielle.
Mm-hmm.
On continue, on va être là, on va tenir un kiosque dans le hall de l'hôtel du Parlement pour rencontrer tous les députés, les ministres, là, pour sensibiliser justement à notre condition, les rencontrer, puis... Puis aussi, au niveau de...
C'est la deuxième fois que vous faites ça, hein?
Oui.
Vous étiez allé déjà.
Oui, la première fois, justement, quand on a commencé nos démarches, en 2013, on a eu l'aide de notre députée de l'époque, Mme Françoise David, là, qui avait vraiment embarqué dans notre projet, qui nous avait beaucoup épaulés là-dedans.
Je vous dis, d'ailleurs, il y a un scoop, il est censé avoir quelque chose pour les personnes handicapées aux prochaines élections. Je le dis comme ça. Mais au-delà de ça, c'est une démarche qui n'est pas simple, parce qu'il y a d'autres partis qui ont, disons, été sensibilisés depuis. Est-ce que vous sentez un appui sur la question du nanisme comme handicap, reconnu comme handicap?
Bien, c'est sûr, il y a encore beaucoup de travail. Oui, je crois que les gens ils peuvent comprendre, mais quand même, il faut, même le handicap en général, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va parler du nanisme, mais vous savez, c'est tout le principe des personnes ayant des limitations fonctionnelles au Québec. Il faut continuer à justement nos luttes sur l'accessibilité universelle, sur notre participation sociale. Fait que là, on le fait de notre angle à nous, mais je veux dire, c'est un peu comme l'extrait que vous avez fait passer de justement la maman de Clémence, Isabelle. Qu'est-ce qu'on aimait beaucoup du regard que a pris Alex dans notre film? Tu sais, ça allait au-delà du nanisme, ça montrait une image... Des rapports humains, mais c'est quoi le handicap? Souvent, les gens voient ça comme... C'est juste des défis. Nous, on compose avec des variables, des défis un peu différents que les autres concitoyens, mais un coup qu'on a les choses pour les compenser, je veux dire, on est...
Vous êtes en mesure de faire
des personnes
le même choix
à part entière. C'est toujours ça qu'il faut marteler, parce que on est encore un peu traité second ordre, là, peu partout. Puis là, vous le dites, là, on prend de plus en plus la parole dans les débats politiques, là, pour justement les élections municipales. On a eu une représentante, une conseillère, peut-être, je sais pas, qui vit la condition.
Il y a déjà eu une personne en situation d'handicap d'élu au municipal, mais là, il y en a plusieurs candidats.
Mais c'est ça, ça fait partie un peu de ces démarches-là, dans le fond.
Vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Je dois vous remercier, Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale à l'OQPPT. Merci d'avoir couru jusqu'ici.
C'est correct.
Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Oui, merci à vous.
Karine Villeneuve, directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille, merci. On avait aussi au téléphone Alexandre Ruffin, le réalisateur du documentaire « Le nanisme, un handicap, à prendre au sérieux ». Il faut aller visiter ça sur YouTube ou sur le site de l'OQPPT. Et Christian Lapointe, membre de l'OQPPT, qui figure dans ce film. Merci à vous deux.
Merci à vous. Merci à vous tous.
Merci à vous tous. On rappelle aqppt.org.
Et puis, un appareil motorisé d'assistance à la marche aime la vie. C'était dans l'émission du 9 octobre avec, moi-même, je vous présentais cette entrevue de Stéphane Bédard, fondateur, président et chef de la direction de Betemia, qui nous présente le Kyogo. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je voulais savoir ce qu'était la technologie dermosquelette. Et là, je pense que je suis tombée sur la bonne personne pour nous y répondre. Bonjour, Monsieur Bédard.
Bonjour.
Stéphane Bédard, hein, vous êtes, Monsieur Bédard, fondateur et président et chef de la direction de Betemia. Kyogo aussi, est-ce que je le prononce bien, donc, qui est le nom de cet appareil d'assistance dont nous allons parler aujourd'hui. C'est bien ça?
Oui, Kyogo, oui.
Kyogo. Monsieur Bédard, qu'est-ce que c'est exactement la technologie dermosquelette?
Pour simplifier la définition, c'est un gros mot, mais en fait, c'est simplement... une nouvelle génération d'orthèses qui est maintenant motorisée pour assister la démarche. On avait dans le passé des orthèses, des mécanismes qu'on a placés sur les jambes pour soit assister la posture, assister la démarche et tout ça. Et dans les dernières années, les technologies robotiques sont arrivées et ils ont mécanisé et robotisé ce genre de mécanisme-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des appareils qui sont robotisés et qui permettent d'assister la marche des individus qui ont de la difficulté à marcher. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère d'orthèse que l'on connaissait dans le temps, qui était très, très passive. Et maintenant, on...
Et douloureuse aussi, hein? Il me semble me souvenir, lorsque je voyais des gens porter cela, il y a, même dans les années 30, 40, enfin, on s'aperçoit que c'était extrêmement douloureux de porter ça.
Oui, c'était moins adapté au corps,
oui,
moins
ça.
De connaissances avec le corps humain et tout ça, et les interfaces étaient difficiles. Mmh. Aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, bien, avec les matériaux, entre autres aussi, ça permet d'avoir un appareil qui s'épouse bien avec le corps, en tous les cas, quasi parfaitement. Et bon, maintenant, c'est motorisé, donc ça permet, avec les ordinateurs, de pousser de l'énergie dans les jambes, avec les moteurs, dans le bon temps, pour vraiment arriver à avoir un bénéfice direct sur la démarche des personnes qui en ont besoin, en fait.
Alors, le projet Kyogo, en tant que tel, qui s'écrit K-E-E-O-G-O, il existe depuis quand?
C'est une invention que nous avons commencé en 2010. Donc,
oui.
À partir de zéro, mon groupe d'ingénieurs, on a travaillé sur cette nouvelle technologie, donc d'arriver à placer des moteurs électriques sur des orthèses passives. Et bon an mal an, le projet, dans les sept dernières années, a maturé. Mm-hmm. Ça vient d'un besoin militaire pour protéger la biomécanique des militaires qui transportent des charges lourdes. Et rapidement, bon, on s'est vite aperçu qu'il y avait un marché médical pour ce genre d'appareil,
oui.
pour des gens qui ont des difficultés à la démarche à cause de maladies souvent dégénératives.
Bon, alors, on va en reparler hein, de ce que permet cet appareil-là. D'abord, la clientèle visée, quelle est-elle? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, aussi de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer? Est-ce que c'est faisable ou pas?
Tout à fait. En général, la clientèle, c'est tous ceux qui ont de la difficulté à marcher pour toute raison. Ça peut être une maladie dégénérative neurologique, ça peut être une maladie dégénérative qui est plus orthopédique, ou bien simplement la vieillesse, ou des faiblesses musculaires. Donc, aussitôt que la personne a une faiblesse à la démarche, voit sa mobilité réduite de mois en mois, l'appareil peut être utilisé. Donc, diverses causes, mais en fait, le résultat est en fait simplement que les gens perdent de l'autonomie à la mobilité, bon, puis font de moins en moins de choses. Et là, ils rentrent dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins tu bouges, moins tu es en santé.
Bien sûr.
Et par la suite, moins tu vas en faire aussi. Donc, on essaie de prévenir cela.
Et puis, bon, on parle d'une énorme amélioration de la qualité de vie. Évidemment, je suis allée sur votre site Internet qui est B-Temia, pour les gens qui nous écoutent. Et il y a des témoignages qui sont fort touchants, ma foi.
Tout à fait, oui. Dans certains cas, oui, c'est vraiment un changement de vie. Il y a des gens avec certaines maladies perdent rapidement leur mobilité ou leur autonomie en mobilité. Et avec l'appareil, bien, instantanément, ça ne prend pas plusieurs semaines pour s'entraîner, instantanément, les gens retrouvent l'heure à la marche qu'ils désirent faire, retourner au jardin pour travailler.
Qu'est-ce que ça permet en dehors, parce que ça permet autre chose que de marcher, hein, cet appareil-là?
Tout à fait. Ça permet de vraiment d'améliorer la démarche, mais surtout aussi la quantité et la qualité.
Oui. Donc, on peut s'accroupir aussi. On peut monter les escaliers. C'est ce que je voyais sur vos images.
En fait, précisément, c'est pas un appareil qui permet de marcher. C'est un appareil qui permet d'être plus mobile dans toutes les circonstances. Donc, si le besoin est d'aller travailler à l'extérieur ou simplement d'aller faire une marche ou bien simplement de jouer avec ses enfants dans la
bien
cour,
sûr,
l'appareil... C'est ça. En fait, c'est l'unicité de la technologie que nous avons qui semble être reconnue à travers le monde, c'est que l'appareil permet une très grande flexibilité aux activités. Alors, peu importe l'activité, l'appareil semble bien répondre et la personne
D'accord.
se sent plus libre.
Le Kyogo, parce qu'on sait bien de cet appareil-là dont nous parlons, lorsqu'on voit des photos, parce que c'est vraiment du haut de la jambe, du haut de la cuisse jusqu'à la cheville, on a l'impression que ça doit être bien compliqué à installer. Vrai ou faux? Vous allez me dire faux.
tout à fait, mais ça prend pour quelqu'un qui est habitué, peut-être personne... 3 minutes, 2 minutes le matin ou 5 minutes, dépendamment des capacités de la personne, mais c'est quelque chose qui est facilement plaçable et aussi utilisable, en fait. Donc, après le premier essai et le premier appareillage du premier matin, bon, ben là, les choses sont plus compliquées. Il faut les introduire à la personne.
Oui, bien sûr.
Un coup, cette étape passée, l'appareil, on s'assoit à l'intérieur, on place les quelques courroies qui est à placer, et les gens s'habituent rapidement à cette routine.
D'accord.
Et c'est moins de 5 minutes pour la plupart des gens pour l'installer.
Et ils peuvent garder l'appareil toute la journée?
Tout à fait, oui. Oui,
wow.
C'est un appareil qui marche avec une batterie, donc nous plaçons 2 batteries par appareil. Et aujourd'hui, une batterie peut faire facilement entre 6 et 8 heures d'autonomie pour une personne aux activités normales.
D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce même système pour les bras, par exemple?
Tout à fait, oui. Nous travaillons déjà dessus, d'autres entreprises aussi. Donc oui, évidemment, l'avenir nous fait un peu rêver, donc on essaie aussi de prendre la même technologie et d'arriver à assister le haut du corps pour certaines tâches de la vie quotidienne.
Okay.
Et principalement, l'objectif de ce genre de produit est beaucoup plus au niveau industriel pour des travailleurs, pour réduire leur fatigue au travail.
Alors, on peut se le procurer où, ce Kyogo-là, et à quel prix?
Bien, en fait, nous avons des distributeurs à travers le Canada, donc Toronto, Montréal, Québec et même dans les provinces de l'Ouest.
D'accord.
Il s'agit de nous appeler directement à l'entreprise et on fait par la suite les contacts nécessaires pour être en mesure de servir le potentiel patient le plus tôt possible. Et aujourd'hui, le coût de l'appareil est de 45 000 $ canadiens, qui est le coût aujourd'hui. Et évidemment, pour arriver à augmenter l'acquisition de ce type d'appareil, on travaille rapidement aujourd'hui avec les compagnies d'assurance et les gouvernements pour être en mesure d'avoir un remboursement le plus tôt possible pour l'appareil.
Et puis, en plus, en offrir plus éventuellement pour que le coût diminue, quoi, évidemment. Quoi.
Tout à fait. Donc, on considère, nous, que le Kyogo ou le dermosquelette, c'est un peu comme les cellulaires en 1980.
Ah oui, en effet. Ah ben oui, excellente métaphore. Merci beaucoup, Monsieur Bédard. Alors, votre site internet, vous êtes facile à trouver. Moi, je sais que je suis allé sur un moteur de recherche. J'ai fait B trait d'union Temia et on tombe sur vous automatiquement. Hein.
Oui, assez facilement. Au Kyogo, le mot aussi est très présent sur le web.
Alors, Kyogo, je rappelle que ça s'écrit K-E-E-O-G-O. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Bédard. Je rappelle que vous êtes le fondateur, président et chef de la direction de Betemia Kyogo. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Ça fait plaisir.
Alors, c'est l'émission Le National qui se poursuit, Clotilde Seille, en votre compagnie. Tiens, si on revenait à l'émission des livres plein les oreilles, le 5 octobre dernier, je recevais Yannick Olassa, qui a lu pour vous, pour nous, Plongée, de Christophe Onodibio. Alors, si tout va bien, je devrais maintenant avoir au bout du téléphone notre ami Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde, je suis là.
Alors, cher Yannick, justement, on parlait de plongée. Vous savez, je rigole toujours. Oui, mais parce que on parlait de plongée à cause de ce drame avec José Ouimet. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a des hasards toujours à cette émission qui font que là, eh bien, le titre du livre dont vous allez nous parler, c'est Plongée, mais vraiment, on ne l'a pas fait exprès. Et ce n'est pas livre jeunesse, hein?
Ah non, pas du tout, du tout.
Pas du tout, du tout, voilà. Vous êtes l'exception qui confirme la règle.
Oui. Alors, c'est un livre, en fait, c'est un roman de Christophe Onodibio. Onodibio, il faudrait l'épeler tantôt.
Oui, alors c'est en 3 mots, hein? Ono, O-N-O, trait d'union, D-I-T, trait d'union bio comme bio, B-I-O.
Oui, c'est ça. C'est un auteur français, normand, en fait, qui vient de Normandie. Plongée, c'est son quatrième ou cinquième roman, là. Je me souviens plus exactement, mais c'est un roman où la trame de fond, ben, c'est une histoire d'amour.
Mm-hmm.
Alors, ce n'est pas un roman d'amour, hein. C'est un roman sur l'amour.
D'accord.
N'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la différence parce que.
Quelle est-elle? Oui, c'est ça. Juste un petit explicatif, peut-être.
Ce n'est pas un roman. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. Pas dire que tous les romans d'amour sont des romans à l'eau de rose, mais un roman d'amour, c'est vraiment l'histoire d'un amour qui nous élève, etc. Mm-hmm.
Et qui ne veut pas mourir.
C'est exactement, j'ai un amour. Je vais me mettre à la chance. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'histoire d'un amour qui, avec ses hauts et ses bas, a engendré un petit garçon qui s'appelle Hector. Et dans le fond, c'est l'histoire d'Hector. Parce que Christophe Onodibio, lui, l'auteur, tout comme son personnage d'ailleurs principal, qui est César, un journaliste quadragénaire, croit qu'on ne peut pas penser l'avenir sans comprendre le passé.
Mm-mm.
Alors, il explique à son fils l'histoire de son origine, de son passé. Dès le départ, au début du livre, on sait déjà, en fait, dès la quatrième de couverture, on sait que Paz, donc la mère d'Hector, est retrouvée morte sur une plage d'un pays du Moyen-Orient. Alors, on sait déjà là que l'amour ne durera pas toujours. Ça, c'est certain. Et il lui explique un peu, César explique à son fils comment est arrivée cette histoire d'amour, comment il est arrivé, lui, là. Et ce n'est pas triste tout le temps parce qu'on suit vraiment, dès le début, l'évolution de leur relation de couple et de leur amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons moments. Et tout ça commence dans le 14e arrondissement à Paris, alors que le journaliste critique d'art aperçoit une belle jeune femme et il veut la retracer. Ça s'avère que c'est une photographe de 23 ans. Lui, il est quadragénaire, elle a 23 ans. Elle fait une exposition dans une galerie et, bien sûr, le journaliste, voulant la conquérir, s'y rend et rédige une critique élogieuse qui, l'espère, va mener la jeune femme à le contacter, pleine de gratitude, et l'amour commencera. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. Paz, qui est une belle jeune espagnole, en fait, elle lit cette critique-là et elle le contacte pour un rendez-vous, ils se rencontrent, mais elle n'est pas de bonne humeur du tout, du tout, du tout. Hein. Elle l'invective parce qu'il n'a pas compris le sens de ses œuvres. Et puis d'ailleurs, tout le long, hein, on parle justement du milieu de l'art, du milieu de la critique de l'art et comment il peut y avoir des fois des incompréhensions qui peuvent durer en fait longtemps. Parce que lui, dans les photos de plage, parce qu'elle se plaît à faire des photos de plage, il voit le plaisir, le fait d'être ensemble, le plaisir d'être en vie. Alors qu'elle, c'est complètement l'inverse. Hein. Elle voit les gens qui envahissent la nature. Et pour elle, la beauté de la mer puis d'un paysage, ça doit rester vierge. Et l'homme vient dévisager, dénaturer les lieux. Bien sûr, on s'en doute, une histoire d'amour naît, mais cette espèce de malentendu reste toujours entre eux. Et puis, c'est pas la seule des différences. Hein. La jeune femme, elle veut voyager, découvrir le monde, c'est sûr, à 23 ans, hein, on est bouillonnant. Mais le journaliste quadragénaire, lui, il a quitté une carrière, justement, où il allait partout dans le monde. Il était reporter à l'étranger. Et pour lui, là, il veut plus quitter l'Europe. L'étranger, c'est le chaos. C'est des dangers potentiels. Et bon, tout le long, ça va être une source de
conflits un peu entre
eux. Oui, c'est ça, entre les deux. Puis, bon, effectivement, on sait qu'à un moment donné, elle quittera, puisqu'elle est retrouvée sur une plage nue, morte nue sur une plage du Moyen-Orient. Mais c'est un roman qui est très poétique, qui nous fait voyager.
Avec une belle écriture, je crois. Hein. Il a une écriture absolument magnifique. Hein. C'est du moins ce que j'ai lu dans beaucoup de critiques. Malheureusement, vous savez, je ne peux pas lire tous les livres dont on parle ici à l'émission, mais je lisais beaucoup sur l'écriture, et c'est un jeune auteur français. Hein.
Oui, c'est... il a 43 ans, si je ne m'abuse. Puis c'est un homme qui est très, très cultivé, qui est très sympathique. Je l'ai rencontré sur un plateau télé à Paris.
Ah oui?
Ce printemps. Il est fascinant.
Oui.
Et tout ça, ça se sent aussi dans son écriture. Il y a de très beaux passages. Je ne vous en ai pas sorti un parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire.
Vous commencez à connaître l'émission.
Mais c'est intéressant de le lire sur l'amour, la quête de l'autre et tout.
Ben voyez-vous, j'ai sous les yeux quelques critiques ici de son écriture sublime. Christophe Honneau dit bio nous immerge littéralement dans cette histoire où s'entremêlent donc l'art et l'amour, tout en brossant le portrait du monde actuel et de ses dérives. Il y a quelqu'un qui dit enfin un auteur contemporain qui a une belle plume, beaucoup de choses à dire sur de nombreux sujets qu'il connaît bien et qu'il aborde sans vulgarité ni cynisme. Et puis par contre, il y en a un autre qui a dit « Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas aimé ce livre, même en cherchant bien, désolé, je ne vois rien de positif. Le roman est rempli de clichés, les personnages sont caricaturaux, l'histoire est quelconque et prévisible. » Vous êtes d'accord avec ça?
Ah non, non.
Non, hein?
Non.
Non, mais je veux dire, je trouve ça intéressant. Vous savez, il y a forcément différents avis sur un livre.
Sûr.
Et puis, alors je me demandais ce que vous en pensiez, vous.
Non, Yannick. Moi, je trouve que en fait, on a vraiment... oui, il y a des trucs qui sont peut-être un peu prévisibles. C'est une histoire d'amour. On ne peut pas nécessairement tout réinventer, mais je trouve que les personnages sont entiers, sont bien campés. Et en fait, j'ai choisi ce livre-là parce que de le relire, parce que je l'ai lu il y a quelques années, parce que justement, en mars dernier, il sortait « Croire au merveilleux ». ». C'est la suite de ce roman, ou comment César se reconstruit.
Ah, mais par contre, je n'ai pas vérifié s'il était disponible au SQLA ou pas.
Sûrement pas tout de suite.
Mais il y a des chances pour qu'il le soit, parce qu'il n'y a pas de raison que le numéro 2 ne sorte pas. Hein?
Non, en effet. Puis s'il sort, je vous en parlerai.
D'accord, Yannick, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, Yannick Olassa, d'être fidèle à cette émission. On vous écoute avec toujours le plus grand des plaisirs. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Dans le cadre des Paractualités du 10 octobre dernier, animé par François Brodeur, il y a eu cette entrevue passionnante avec Rémi Saint-Hilaire, directeur adjoint de l'école secondaire Chavigny de Trois-Rivières, qui décrit les raisons qui poussent son institution à se doter d'une salle blanche Snolzolen, j'espère bien le prononcer, pour détendre les élèves aux besoins de l'école qui compose avec l'anxiété.
Alors, on rejoint immédiatement au téléphone un directeur d'école qui a de grands, grands, grands projets, Rémi Saint-Hilaire. Rémi Saint-Hilaire, bonjour.
Bonjour, M. Brodeur.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien, merci. Vous-même?
Moi, ça va même très, très bien. on me parle beaucoup de votre salle blanche. C'est ce qui semble finalement assez à la mode parce que c'est la troisième dont j'entends parler depuis quelques semaines. Rappelez à nos auditeurs, c'est quoi une salle blanche puis en quoi ça va aider vos élèves?
Écoutez, on va commencer par la clientèle particulière qu'on a à l'école et j'expliquerai aussi le concept d'une salle blanche. Mais ici à l'école, nous avons des groupes avec des besoins particuliers. On a une classe, dans le jargon qu'on dit DIEM, déficient intellectuel moyen. Donc, dans ces classes-là, on a des élèves qui sont trisomiques et des élèves aussi qui ont des problèmes, différents problèmes physiques. On a aussi trois classes TSA, qui veut dire trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Et ces élèves-là, souvent, ont beaucoup d'anxiété. Donc, on est une des seules écoles qui n'avait pas de salle blanche pour ces élèves-là qui pourraient en bénéficier une salle blanche. Ce que j'ai, moi aussi, là, je suis un peu nouveau dans le sens que j'ai fait mes recherches l'an passé parce que c'est mon équipe me demandait une salle blanche pour l'école ici. Et c'est un concept hollandais là, des années 70 où ce que deux chercheurs avaient remarqué le bienfait qu'avait ces salles-là, qui sont des salles multisensorielles qui stimulent les sens. Chez les élèves qui étaient atteints là, à l'époque, là, pour eux, là, lourdement handicapés, soit au niveau mental ou physique. Et pour nos élèves anxieux, dans les autres écoles, on a pu remarquer que ces salles-là existaient, ça avait un grand avantage pour eux. Donc, on s'est dit, bon, on va aller de l'avant, on va faire un plan, on va aller voir combien ça coûte, comment on pourrait équiper notre salle, parce qu'on a l'espace physique pour le faire, mais on n'avait pas fait de plan encore. Donc, on s'est allié à une compagnie spécialisée là, qui nous a aidés dans les... On a donné les dimensions de salle, on a dit un petit peu ce qu'on voulait, et eux nous ont sorti là, un projet de construction pour une salle blanche. Et donc là, on est à l'étape où ce qu'on cherche le financement, parce que naturellement, c'est pas donné, c'est de l'équipement spécialisé. Et c'est une salle aussi qui va profiter. Donc, c'est une salle d'apaisement, mais aussi une salle de stimulation. Elle remplit les deux rôles. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas un élève en crise là, dans ces locaux-là, mais on envoie un élève qui est anxieux, donc un élève qui pourra en profiter. Et ça a un effet d'apaisement un peu comme un enfant qui aurait besoin de sa doudou ou qui a besoin de... Parce que les cinq sens sont stimulés. On a des fois, ça peut être au niveau visuel, ça peut être au niveau du toucher, de l'odeur. Donc, l'élève est... En rentrant dans cette salle-là, non seulement il y a toujours un intervenant qui va le diriger vers les différents appareils qui sont là, mais cet élève-là va pouvoir avoir la chance de trouver un environnement qui le stimule et qui le calme en même temps.
Et est-ce que j'extrapole beaucoup si je dis qu'un élève anxieux dans une classe, notamment TDAH, ben c'est très, très, très contagieux et qu'on a intérêt à régler le problème à l'origine le plus rapidement possible?
Ben écoutez, nous, on en voit de plus en plus. Moi, je remarque que c'est pas juste dans mes classes où mes élèves ont des besoins particuliers, même dans mes classes dites régulières. On a de plus en plus d'élèves qui souffrent souvent d'anxiété sévère au point qu'on doit les sortir de classe. Ils reçoivent de l'aide particulière des techniciens en éducation spécialisée, mais ces élèves-là aussi pourraient bénéficier d'une salle comme ça. Des fois, c'est des moments critiques dans l'année. Naturellement, on se cachera pas que les périodes d'examen et d'évaluation, c'est des périodes qui sont très anxiogènes chez nos élèves. Mais à d'autres moments, ça peut être juste les vacances. Les vacances arrivent et pour certains élèves, juste le savoir qu'ils doivent quitter pendant deux semaines. Et en tout cas, pour certains, ça amène une certaine forme d'anxiété. Alors, oui, autant nos élèves des programmes particuliers qui ont des services particuliers que nos élèves du régulier pourraient en profiter. Donc, on a commencé, là, c'est tout récent, là, on a commencé à faire nos levées de fonds. On a formé nos parents, naturellement, de nos services. Alors, on a l'appui des parents, on a l'appui de notre conseil d'établissement ici à l'école. Donc, il nous reste juste à ramasser les sous, puis aller de l'avant avec le projet.
Et on parle de combien de sous à ramasser au total?
Ben, au total, c'est sûr que nous, là, on vise haut. C'est-à-dire que pour commencer la phase 1, on peut facilement commencer la phase 1 avec un 10, 15 000 $. Ça, c'est, puis la salle est quand même fonctionnelle. Mais si on veut avoir une salle vraiment bien équipée avec la fine pointe, là, de tout ce qu'il peut y avoir, qu'on peut rentrer dans une salle dans ces dimensions-là, l'entreprise spécialisée nous a fait phase 1, phase 2 et phase 3. Et nous, on vise phase 3. On va commencer le projet avec la phase 1. Mais si on atteint un 60 000, là, c'est sûr qu'on a une salle hautement équipée et vraiment spécialisée pour ces élèves-là. Dans le jargon, j'aurais même tendance à dire on a la Cadillac là, de la salle blanche pour notre école. Là.
Et les élèves de votre école secondaire, ils viennent de quelle région exactement? Ça va s'adresser à quelle clientèle?
Bon, si on parle à notre clientèle qui ont des besoins particuliers, bien, ils proviennent du territoire de la commission scolaire du Roi, surtout du côté de Trois-Rivières et vers l'ouest. Mais naturellement, comme dans nos classes de déficients intellectuels moyens, on est le point de service pour l'ensemble de la commission scolaire. Donc, on dessert de Saint-Anne-de-la-Pérenne jusqu'à Louisville. C'est sûr que ça fait un trajet très long pour ces élèves-là, d'autant plus quand ils arrivent après une heure de transport ou 45 minutes de transport. Souvent, déjà là, c'est un sujet d'anxiété, juste prendre le transport pour se rendre à l'école pour certains, là, c'est épuisant. Mm-hmm.
En terminant, Monsieur Saint-Hilaire,
oui.
Comment on s'y prend si on veut vous aider?
Écoutez, on peut aller sur le site, parce qu'on a un site qui nous permet là, de vendre nos produits. On fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Recettes Empo de sociofinancement. Et si on va sur le site chavigny.recettes avec un S, empo.com, là, on a la possibilité d'acheter des aliments, des empo. Prêt à cuisiner. Il reste juste à rajouter des fois des œufs ou de l'eau, quelques ingrédients. Et si les gens sont de la région de Trois-Rivières, ils peuvent venir à l'école et on est un point de service là, donc on a les pots ici directement qu'on peut leur livrer. Si les gens sont de la région de Montréal, ben peuvent aller directement à recettesempots.com, ben aller sur notre site et peuvent aller directement à l'entreprise chercher les pots et eux vont leur pouvoir leur livrer les pots plutôt que faire le voyagement jusqu'à Trois-Rivières. C'est aussi possible là pour un coût quand on achète plusieurs pots, il y a un coût minime là, je crois que c'est 10 ou 15 $, on peut s'y faire livrer à la maison aussi. Mm-hmm. Alors, c'est possible de nous aider de cette façon-là. Naturellement, ces sous-là vont aller directement dans la salle blanche pour la construction de la salle blanche pour nos élèves.
Hey, ça nous change énormément du chocolat.
Oui, oui. Il n'y a pas de porte-à-porte à faire. Ça peut se faire directement par le site Internet. Et on peut transmettre l'information aussi via les logiciels de sociaux là, comme Facebook ou même par Internet, on peut transmettre l'information puis envoyer ça à nos contacts.
Parfait. Monsieur Saint-Hilaire, le temps passe terriblement vite. Je dois déjà vous quitter. Je vous remercie d'avoir été avec nous.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.
Et je vous souhaite bonne chance.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Toujours dans le cadre des Paractualités, un programme de danse pour personnes handicapées à Kingsville. On va tout savoir et puis quelques nouvelles qui vous ont été rapportées les 11 et 12 octobre par la voix si douce d'Hélène Denis.
Alors, au National, on nous apprend qu'il y a maintenant un programme de danse pour personnes handicapées. C'est Radio-Canada qui en a fait une nouvelle. Un nouveau programme de danse pour personnes handicapées voit le jour à Kingsville, dans le sud-ouest de l'Ontario. C'est Mkala Treman, professeure de danse et aide-enseignante, qui en a eu l'initiative après qu'une jeune fille handicapée avec laquelle elle travaillait l'eût suppliée de lui apprendre à danser. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Tu fais déjà des mouvements de danse, alors continuons », dit Mkala Treman. Les styles de danse seront adaptés aux capacités de déplacement des élèves. Le programme de 10 semaines sera ouvert à toute personne à partir de 4 ans avec des besoins spéciaux. Ce sera un défi au début, mais je suis ouverte à ça et je suis vraiment enthousiaste, indique l'enseignante. Je veux rendre le programme aussi accessible et abordable que possible. Je ne veux empêcher personne de venir, explique Mme Treman. C'est pourquoi elle espère réduire les frais d'inscription de 125 $ en recherchant des commanditaires. En outre, les cours se dérouleront au Lions Club sur la rue Mill parce que l'endroit est plus accessible et qu'il offre plus de place à la danse. La danse, c'est bon pour votre âme et c'est aussi bon pour votre corps. Un récital se tiendra en fin d'année.
Sur le site de Radio-Canada, l'art comme porte-voix des malentendants à Regina. Les élèves sourds et malentendants de l'école secondaire Tom Collegiate ont réalisé une exposition en collaboration avec le collectif d'artistes Dave Crows à Regina pour sensibiliser le public à leur handicap. L'exposition Dave Forest, la forêt des sourds, accueille les visiteurs dans trois univers qui s'entremêlent, le monde des personnes sourdes, celui des personnes malentendantes et celui des entendants. L'objectif est d'inviter le public à percevoir l'expérience des personnes sourdes et malentendantes dans la société. Selon Joanne Weber, l'enseignante qui a supervisé le projet, la forêt des entendants est par exemple représentée avec des arbres pointus aux lignes agressives pour incarner les jugements auxquels peuvent faire face les personnes sourdes et malentendantes. Sheila Tanner, une élève malentendante de 12e année qui a contribué à réaliser l'exposition, explique que l'art a eu pour elle un effet thérapeutique qui lui a permis d'accepter sa différence. « Je me sentais dépressive, mal comprise et éteinte, mais désormais je peux montrer au monde que je me sens heureuse et je reste positive », explique-t-elle. La jeune fille souligne que l'art est pour elle un moyen d'expression d'autant plus important qu'il permet à sa famille et à ses proches de mieux la comprendre. Easy, une plateforme digitale pour les personnes à besoins particuliers et leurs aidants. Assurebanque20.fr, c'est le site sur lequel nous avons tiré cette nouvelle. Profitant de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, Handicap International a lancé Easy, H-I-Z-Y, une plateforme digitale tout en un pour les personnes à besoins particuliers et leurs aidants. Easy est un projet à but non lucratif qui propose de l'information gratuite et des services payants, ainsi que l'accès à des communautés de partage d'expériences pour tous ceux concernés par le handicap, la maladie ou le grand âge. S'adressant à plus de 20 millions de personnes en France, Easy vise toutes les personnes à besoins particuliers. Il s'adresse également aux aidants qui prennent soin au quotidien d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Cette population représente plus du tiers de la population française, avec 12 millions de personnes handicapées d'après l'INSEE et 11 millions d'aidants d'après le baromètre des aidants de la Fondation April, partenaire du projet Easy. Pour la première fois, le site easy.org propose un très grand nombre de réponses aux besoins particuliers réunis dans un même endroit. Des informations rédactionnelles gratuites, personnalisées et de qualité. Des services de téléassistance, assistance administrative et juridique, conciergerie médicale, aide au retour à l'emploi. Et d'autres propositions commerciales comme une offre de logement accessible avec Airbnb. Des blogs et des forums pour que les membres des communautés concernées partagent, s'écoutent et s'entraident. De cette manière, Easy permet aux personnes à besoins particuliers et à leurs aidants de gagner du temps. Beaucoup de choses sont disponibles sur Internet, mais de manière morcelée, incomplète ou trop chère. À cela, Easy répond par plus de 20 ans d'expérience en France dans la production d'informations sur le handicap avec le magazine Déclic. Les services proposés sur la plateforme sont rigoureusement sélectionnés. Alors, on poursuit avec des solutions peu chères pour aider les personnes handicapées au travail. C'est sur le site de Radio-Canada. Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion a lancé mardi la portion albertaine de sa campagne de sensibilisation à l'accessibilité en milieu de travail. La campagne vise à rappeler les difficultés et les défis que rencontrent les personnes handicapées pour accéder à leur lieu de travail. La campagne « Ne laissez pas l'obstacle vous intimider » vise à rappeler que l'absence de certains aménagements comme des rampes d'accès peut être un véritable obstacle pour les personnes handicapées. Le président du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, Michel Bach, souhaite cependant aller au-delà des campagnes de sensibilisation. Il croit que les gouvernements provincial et fédéral devraient agir pour améliorer l'accessibilité en milieu de travail. Les campagnes sont géniales. Elles sont un outil d'éducation, mais ce ne sont pas elles qui apportent le changement. Pour ça, il faut voir des modifications aux lois, a-t-il dit. Selon Nabil Ramji, un homme handicapé qui se spécialise dans l'adaptation des édifices pour les rendre accessibles, des changements concrets ne seraient pas très difficiles à mettre en place. Son associé architecte, Erin Shillidy, croit que 80 % des changements peuvent se faire pour moins de 500 $. Cela peut être aussi simple que de peindre un escalier pour faire un contraste et aider une personne qui a des problèmes de vision, a-t-il affirmé. Selon Matthew Hagel, directeur général du Centre de ressources Independent Living, le problème de la distance à parcourir pour les personnes handicapées est particulièrement important à Calgary en raison de l'étalement urbain. C'est une énorme ville. Les choses s'améliorent, mais nous continuons d'étendre la ville plutôt que de construire en hauteur, a-t-il expliqué. Il croit cependant que des projets comme la ligne verte du train léger devraient faciliter la vie aux personnes handicapées qui vivent dans la métropole albertaine. La situation est moins problématique à Edmonton qu'à Calgary, a-t-il affirmé, parce que la capitale albertaine aurait adopté plus de solutions pour améliorer ses réseaux d'accès. Un Ontarien sur sept a un handicap. La ville de London est à l'écoute des citoyens avec un handicap, c'est dans l'action.ca. Pour certains, cette condition est bénigne. Pour d'autres, elle nécessite un mode de vie qui est adapté en tout temps. Quoi qu'il en soit, avec le vieillissement de la population, la proportion de gens devant composer avec une limitation physique est appelée à augmenter. Tant les secteurs privés que publics doivent donc se préparer en conséquence et peaufiner le travail qui a déjà été fait pour permettre aux personnes handicapées d'être membres à part entière de la société. C'est dans cette perspective que la ville de London a organisé en octobre une série de consultations publiques sur l'accessibilité, aussi bien au sein des entreprises et organismes qu'en ce qui relève directement de la municipalité. Les gens étaient invités à partager leurs besoins, expériences, observations et suggestions. C'est le comité consultatif sur l'accessibilité qui pilote cet exercice d'engagement de la population. Ce comité a pour fonction de faire des recommandations au conseil municipal. Les consultations se veulent des plus ouvertes, le but des organisateurs étant d'écouter et non pas d'offrir des solutions toutes faites. Les événements sont conçus pour être interactifs et aucun sujet n'est exclu. Transport, logement, emploi, participation civique. Les prochaines consultations auront lieu le 14 octobre à 13h30 au South London Community Centre, 1119 boulevard Jalna. Si quelqu'un requiert un service adapté, par exemple un interprète en langue des signes, il suffit de contacter le comité au 519-661-2489, poste 0835. Le rapport synthétisant les échanges sera rendu public au début de 2018.
Voilà, c'était le National, présenté pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M, qui remercie, comme elle le fait bien toutes les semaines, l'équipe qui lui permet d'arriver en ondes avec une émission toute préparée. Alors, merci beaucoup à Christiane Campagna, à Jean-Sébastien Laliberté, à Mathieu Tessier, à Anne-Laure Janson, et j'espère ne pas en avoir oublié. Et bien sûr, merci à Maurice Bolduc qui était en régie aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, il vous suffit d'aller sur le site canalm.vusezvoix.com. À la semaine prochaine.